Bonjour. Voilà, c'est la nouvelle année, donc on dit ce qu'il faut dire, encore que... Alors, je reviens un peu sur la question du nouvel an. La date du calendrier julien dans laquelle nous vivons ici est une date qui ne s'impose pas à la totalité de la population mondiale, à telle enseigne que, par exemple, en Russie, le nouvel Noël, c'est le 7. Et vous savez tous que le nouvel an chinois se place... Alors, c'est calé par rapport à des lunes après le solstice d'hiver. Bon, donc, le nouvel an chinois sera, je crois, le 1er février. Donc, il y a une part d'arbitraire qui existe. C'est vrai que le 1er janvier s'est un peu installé dans la globalisation. C'est-à-dire, tout le monde le fait, les Chinois y compris. Ils en font deux, en fait. Ils en font un le 31 décembre, le 1er janvier, puis bon, ils en referont un autre dans un mois. Et puis, pourquoi ça se passe à ce moment-là? Parce que donc, c'est le solstice d'hiver, un événement astronomique constaté depuis des siècles, qui montre effectivement, et qui a du sens, puisque c'est le début de la croissance de la durée des jours. Et donc, c'est porteur d'espoir. Alors, pour les Chinois, c'est un peu plus porteur d'espoir, parce qu'un mois plus tard, la sève a déjà commencé à remonter dans les arbres, et qu'on sent déjà que le printemps sera là. Quand le 1er janvier, ça, c'est pas évident, il faut un peu se convaincre en disant le printemps n'est pas si loin. Et vous savez que par rapport à cette célébration de la sève qui remonte, donc la végétation qui... Alors en plus, c'est un phénomène qui est propre à l'hémisphère nord. Enfin, tout ça aussi, c'est très lié. C'est lié à la question de ce qu'on appelle le carême et la mi-carême. Puisque la mi-carême est une façon de célébrer l'approche du printemps, le retour des énergies nouvelles, des fleurs, de l'amour, etc. Voilà. Donc tout ça s'inscrit dans un calendrier astronomique. Puis après, chaque société humaine a articulé ça à ses traditions, ses habitudes. Et ça me donnait l'occasion de regarder comment s'appelait le mois de janvier dans le calendrier révolutionnaire. Vous savez que la France s'est dotée assez brièvement, d'ailleurs, d'un calendrier révolutionnaire à partir de 1793, et ce calendrier n'a été rangé définitivement, je ne sais pas, dans les oubliettes par un certain Napoléon Ier, qui voulait un peu tourner la page de la Révolution. Et donc, le début de l'année se fêtait au mois de Nivose. Vous savez que tous les noms du calendrier révolutionnaire étaient des noms liés au climat du temps. Nivose, donc, c'est le mois de la neige. Alors c'était un peu difficile quand même, alors c'est quand même une observation qu'il faut faire. Le calendrier révolutionnaire était un calendrier qui comportait trois fois 10 jours, c'est-à-dire trois décades, hein, et donc ça faisait 4 fois 30 jours. Ce qui avait comme conséquence, et ça c'était pas très très révolutionnaire, c'est qu'il n'y avait qu'un jour de repos décadaire, c'est-à-dire que... On travaillait un peu plus, on était censé travailler un peu plus que quand il y avait le repos dominical. Le repos dominical était supprimé puisque le dimanche était supprimé en tant que tel. Alors ça s'inscrit quand même dans une période, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'en 1791, donc on est 2 ans avant la mise en activité du calendrier révolutionnaire, il a été voté par la Convention un texte qui s'appelle la loi Le Chapelier, qui en fait interdit les coalitions et les regroupements. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que la volonté des nouveaux élus, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des corporations qui fassent la loi, des gens qui contrôlent les autres, etc., qu'il n'y ait pas un chef des maçons, un chef des artisans qui fait régner sa dictature sur la corporation. Mais à la place, on dit ça, tout ça est interdit. Mais y compris, ça veut dire, mais le mot n'existe pas à l'époque, que le principe du syndicalisme ouvrier est rejeté par cette loi Le Chapelier. On ne peut pas faire d'action solidaire, c'est chacun pour soi. Alors on est dans la grande suite de 89, c'est la liberté individuelle qui s'affirme, hein, mais en même temps, il y a ce problème qui sera réglé. Alors il faut savoir que la loi sur les syndicats en France, elle est quand même de 1884, c'est-à-dire il a fallu presque 100 ans pour que ce droit de coalition de la classe ouvrière soit reconnu dans les textes. Alors, entre-temps, il y a eu des actions concrètes, hein, les canuts lyonnais, enfin, tout le monde sait ça, mais il a fallu quand même passer cet épisode qui paraît étrange aujourd'hui de la loi Le Chapelier qui interdisait les coalitions, les corporations et l'activité collective pour défendre la condition d'un groupe de personnes. C'était donc ça le calendrier révolutionnaire. Et c'était une façon de le resituer, cet événement, dans notre histoire, et dire qu'effectivement, la fête du 1er janvier, c'est une fête un peu arbitraire, qui est à quelques jours du solstice. Bon, mais pas plus que ça. Hein. Donc ça, c'est l'événement astronomique qui est pris en considération. On va parler, bien entendu, dans cette année 2022, d'une épidémie qui se poursuit. Vous ne l'ignorez, personne ne l'ignore. Et elle se poursuit dans des conditions un petit peu complexes. Alors, je ne rentre pas dans les détails, vous en êtes abreuvé, mais je voulais m'arrêter sur une délibération, une décision qui a été prise ces derniers jours, je ne sais pas si hier ou la semaine dernière, par le tribunal constitutionnel de la République fédérale allemande. Ce tribunal constitutionnel, donc l'instance suprême en matière de droit en Allemagne, a été saisi par des personnes handicapées. Alors, je suis moi une personne sur un fauteuil, enfin des personnes handicapées, alors différents types de handicap, peu importe, mais 9 personnes ont saisi cette cour constitutionnelle pour demander si il y avait le droit pour le corps médical de trier les patients. Alors, leur objectif, c'était de dire, moi, est-ce qu'en tant qu'handicapé, on va me faire passer en deuxième priorité, je ne serai pas soigné. Ça, c'est très intéressant comme démarche, puisqu'au fait, on est au cœur de ce sujet-là, avec les journées blanches à l'hôpital, etc. Et ce que la Cour constitutionnelle donne dans son jugement, puisqu'elle a fait un jugement, c'est qu'effectivement, ces personnes étaient fondées à demander d'être traitées comme les autres au même moment. Bon. Alors ça, c'est le principe général. Et puis après, une fois qu'ils ont posé le principe général, qu'on retrouve dans la Constitution allemande, c'est-à-dire l'égalité des personnes devant l'administration et devant les équipements publics, après, ces messieurs, qui sont même des gens qui connaissent un peu la situation, se sont posé quelques questions, en disant, bon, c'est bien de dire qu'on ne choisit pas, mais, et c'est aussi dans les attendus de leur jugement, dire, dans le cas où il y a à choisir, comment on fait ? Et alors là, eh ben, ils ne font pas de l'hypocrisie, mais ils disent la loi allemande est muette. Donc ils invitent donc, le Bundestag, le Parlement, à légiférer là-dessus. Alors on attend ça avec beaucoup de curiosité, parce que comment faire pour dire tout le monde est égal par rapport au système sanitaire, mais il y a un moment où on va trier. Alors c'est très intéressant, parce que c'est le cas de l'Allemagne, mais en fait c'est une question qui se pose maintenant partout, c'est-à-dire que la gestion générale de la pandémie, ça a été de dire, il y a des moments où il faut prendre des mesures socialement contraignantes parce que le système hospitalier ne fait pas face, c'est bien ça ce qu'on nous a mis dans la tête et ce qui est la réalité. Bon. Et dans la mesure où on veut que le système hospitalier fasse ce qu'il peut avec les moyens dont ils disposent et qui ont été diminués, c'est bon à le rappeler, il y a des moments où, et ça a dû se passer, alors ce n'est pas médiatisé, ils ont peut-être gardé ça dans le secret de leur confiance, mais il est certain qu'il y a forcément eu des médecins, des chirurgiens qui se sont trouvés à dire comment je choisis, comment j'arbitre, hein, et au nom de quoi, hein. Alors après, vous mettez ce débat-là dans une réunion de famille au moment des fêtes. Bon, alors, il y a des gens qui vont caricaturer. Ben moi, entre un vieux de 75 ans qui a subi 3 doses et puis un jeune de 25 ans en pleine forme, le choix est tout de suite fait. Bon, OK. Alors là, c'est la caricature. En fait, le médecin qui, j'imagine, qui s'est trouvé dans cette situation-là, il avait 2 patients qui présentaient des risques un peu égaux, un qui connaissait bien, l'autre qui connaissait moins bien. Enfin, vous imaginez tous les cas de conscience qu'il peut y avoir quand on se trouve face à une situation pareille. Et on peut s'interroger, pour ça, est-ce qu'un Parlement va pouvoir rédiger un article en disant « la priorité, c'est ça ». Je leur souhaite bien du plaisir. Je leur souhaite bien du plaisir. Parce que alors on a parlé des comorbidités, on a parlé de ça, mais effectivement, il y a des opérations qui sont reportées, donc des gens qui normalement auraient dû être soignés et qui ne vont pas l'être et qui donc risquent de disparaître de ce fait-là. On est face à un vrai problème qui renvoie au cœur de la question, je reviens là-dessus, le cœur de la question, et c'est dans les attendus donc, de l'arrêté de la Cour constitutionnelle allemande, c'est de dire, quand on est face à une rareté des moyens, c'est-à-dire dès l'instant où il y a crise du système sanitaire, le système ne peut fonctionner que dans la mesure où il fait du tri. Alors le mot, je l'utilise volontiers, ben c'est le mot le plus cruel, le triage se fait. Il se fait comment ? Qui le fait ? Au nom de quels critères ? Hein ? Vous voyez ce que ça peut donner ? Vous voyez ce que ça peut donner dans des pays en particulier ? Je ne pense pas spécialement aux autres, mais vous avez le choix, pas forcément par rapport au Covid, mais entre un hôpital public qui est ce qu'il est avec les moyens qu'on lui a laissés et un hôpital privé fort cher où vous pouvez vous aller où d'autres n'iront pas et où là vous serez traité tout de suite. Donc il y a une inégalité qui est réelle aujourd'hui dans les systèmes sanitaires et c'est bien compliqué de dire le tri n'aura pas lieu. Le tri a forcément eu déjà lieu, je ne sais pas, je n'ai pas de témoignage, mais on s'en doute qu'il y a eu des cas comme ça, et il est particulièrement délicat, et il renvoie à une absence de capacité à faire face à une épidémie, alors que maintenant, ça fait quand même à peu près 2 ans, mais je rappelle qu'en 2021, le gouvernement de la République française, à travers les lois sur le financement de la sécurité sociale, a continué à diminuer le nombre de lits. Donc, il a mis en place le couperet qui va obliger des médecins, des infirmiers, des chirurgiens à dire « lui, je le prends, lui, je ne le prends pas ». Et ils ne font ça que parce qu'il n'y a pas les moyens. Ils ne font pas ça parce qu'ils sont méchants et sauvages et des brutes. Puisqu'en plus, même pour un médecin, vous savez, le fameux serment d'Hippocrate, qui dit « moi, toute personne souffrante qui arrive entre mes mains, quelle que soit sa condition, sa couleur, sa religion et tout, je la soigne. Le problème, c'est que quand j'en ai 3 et que j'ai qu'une table pour les mettre, comment je fais ?» Ça, et c'est ça la réalité du système sanitaire. Et là, le médecin est totalement désemparé. Il n'a pas d'éléments de choix. Comment il va choisir ? J'aime mieux être à ma place qu'à la sienne, en réalité. Et autrement, il fait des choix qui ne sont pas forcément liés à la condition médicale. Des choix d'argent, des choix de classe, des choix d'intérêt supérieur, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Grande difficulté, mais je voulais signaler donc ce débat qui touche l'Allemagne maintenant, qui va être obligé. Alors le nouveau gouvernement qui arrive là, il dit ben, effectivement, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, mais je leur souhaite bien du plaisir. Alors on suivra le dossier attentivement chez eux, parce que comment ils vont faire pour dire qu'il y a certains cas, il y a certains moments où l'hôpital doit trier. Et comment il fait ? Et au nom de quoi ? Alors il y aura peut-être des critères un peu souples, mais c'est très intéressant parce que ça nous impacte nous aussi tout à fait directement. Ça peut arriver dans les hôpitaux français, si ce n'est déjà fait.
C'est l'européenne.
Ça ne serait pas plus simple ?
Ouais.
Non. Alors, oui, c'est vrai. Habib dit pourquoi ils ne font pas ça. Ben, parce que pour l'instant, la Cour constitutionnelle allemande a dû traiter un procès, donc elle a jugé. Ouais. Elle a jugé en disant « moi, je reconnais, je confirme que la Constitution dit que tous les hommes sont égaux devant le système de santé ». Ça, c'est le principe. Ouais. Et puis quand le système de santé n'est pas à l'échelle, comment on fait pour introduire de l'inégalité ?
Mais le protocole du plan blanc pour les hôpitaux, c'est bien ça. C'est bien, on favorise d'abord les gens malades du Covid et après...
Voilà, alors ils ont quand même dit on décale dans le temps des opérations qui ne sont pas urgentes, etc. Mais ça se discute. Et puis, une opération qui paraît pas urgente aujourd'hui, quand le malade, j'en ai encore vu un avant-hier en allant faire des analyses de sang, le monsieur disait « ah ben on m'a téléphoné pour me dire que c'était dans un mois ». On lui a téléphoné, donc sans motif. « Ah ben monsieur, votre opération est reportée au mois de février. » Je lui souhaite que tout se passe bien pendant le mois d'attente, mais quelle pathologie il avait, quel risque, c'est un monsieur très âgé, quel risque on lui a fait courir, ça je ne sais pas. Hein. Mais ça, c'est des situations quotidiennes. Alors aujourd'hui, par rapport au plan blanc, l'hôpital téléphone. Parce que là, c'était dans un laboratoire d'analyse, la dame qui l'accueillait lui disait « mais vous n'avez pas un papier, vous n'avez rien dit ?»« Non, non, je n'ai pas un papier, j'ai eu un coup de téléphone en disant « c'est le mois prochain bon. ». Ce n'est pas très rassurant, parce qu'en plus, quand on est opéré, il y a une certaine angoisse de l'opération. Bon, ce monsieur va baigner un mois dans son angoisse, en espérant qu'il ne lui arrive rien de plus que de l'angoisse. Voilà. Donc, ce contexte donc de système sanitaire qui est affaibli et qui continue à l'être par les lois de financement votées par le Parlement, j'insiste là-dessus, va se poursuivre. Et en ce moment, on voit arriver la difficulté à une grande échelle, puisque autant on peut dire qu'apparemment, la nouvelle formule, le variant Omicron, est moins virulent et moins létal, disons, il tue moins que d'autres, mais par contre, sa vitesse de propagation est extrêmement élevée. Ce qui explique que, par exemple, on parlait avant le début de l'émission du fait qu'il y a, je crois, 70% des vols aériens aux États-Unis qui sont suspendus parce que les pilotes sont malades, point, c'est tout. J'ai vu aussi en arrivant des poubelles non ramassées le long de la rue, alors que le conflit des poubelles est terminé à Marseille. Et bien, ça veut dire que l'équipe qui était sur la benne qui fait ce parcours-là, elle est malade, c'est tout. Et en arrivant encore, je suis passé devant une école où il y avait une classe de CM2 qui était fermée. Voilà. Bon, donc c'est ça le contexte actuel, c'est-à-dire extrême rapidité de la diffusion, même si un certain espoir est donné par le fait qu'apparemment la dangerosité de ce variant est un peu plus faible. Donc nous allons vivre encore pas mal de semaines de ce régime-là dans cette difficulté nouvelle et avec cette espèce de... C'est une menace, parce qu'un système politique qui qui conduit à dire bon, il y a des gens que je soigne mieux que d'autres, ou il y en a que je soigne et d'autres que je ne soigne pas. C'est un système politique qui est en train de glisser en dehors de la démocratie.
Et oui.
Et c'est pour ça que la Cour constitutionnelle allemande, elle a dit, d'après le texte de loi, tous les citoyens sont égaux. Donc, ils ont droit au même traitement. Mais en pratique, ce n'est pas possible. Donc, on a, je dis, des réflexes de classe, des rapports, les endroits où il n'y a pas d'hôpital, les bons hôpitaux, les mauvais hôpitaux, tout ça rentre en jeu. Alors, c'est important, mais ça nous fait prendre conscience de l'importance du système sanitaire dans nos sociétés développées et de l'impossibilité qu'il y a, enfin, de la difficulté pour un pouvoir de dire à des gens, oui, ça, on pourrait vous soigner, mais on n'a pas les moyens de le faire, on ne veut pas le faire. Parce qu'au fond, tout le monde se préoccupe, et ça a été accru par la pandémie, se préoccupe des questions sanitaires, des traitements, des soins, des vaccins, des tests, enfin tout ça. On en a été imprégné pendant 2 ans et ça va durer. Mais ce qui n'est pas dit, c'est qu'un système qui dit ben, « oui, vous êtes tous égaux devant la santé », comme dit la loi fondamentale allemande, mais qui n'est pas capable de le mettre réellement en pratique, est un système qui est en train de glisser en dehors du système démocratique. C'est-à-dire, il a des beaux principes. Alors, on connaît, hein, liberté, égalité, fraternité. Et puis, il s'est mis lui-même dans l'incapacité de l'appliquer. Car la diminution du nombre de lits dans les hôpitaux français, qui a continué en 2020 et 2021, elle ne date pas de 2020. Non. Elle était programmée, elle était voulue, et il n'y a pas eu un relâchement dans cette politique de diminution du nombre de lits. Voilà, c'était une introduction sanitaire. Bon, on parlera d'autres choses une autre fois, mais ça nous donne le contexte au moins du premier semestre 2022 dans les médias et dans nos consciences individuelles et collectives. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de ce qui s'est passé. C'était donc hier. Ça, c'est plutôt du côté des bonnes nouvelles, encore que je vais mettre un certain nombre de réserves. Ça s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU hier, lundi 3. Il y avait là donc les membres permanents, vous savez, les 5 membres, et puis il y a toujours une quinzaine d'autres qui sont les membres tournants. Mais il y a eu un vote qui est le premier du genre. Un vote qui a été approuvé par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, je rappelle, États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne et France. Dans lequel ils ont pris position pour éviter la dissémination de l'arme nucléaire. Alors, on va dire, mais c'est déjà prévu, c'est dans le traité de non-prolifération. Alors, c'est quand même aller un peu plus loin, parce que là aussi, on est par rapport à cette difficulté à faire engager les États-Unis sur un texte avec une signature. Ils ont signé cet accord de non-prolifération, mais ils ne l'appliquent pas. Et donc, ils se sont engagés lundi 3 janvier, alors je lis, à prévenir la poursuite de la dissémination des armes nucléaires. Ça veut dire, alors là, on est tout à fait dans le cadre du traité de non-prolifération. C'est-à-dire qu'aucun de ces 5-là ne vendra à un autre pays qui n'a pas l'arme nucléaire les moyens d'en fabriquer une. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, on pense bien sûr à l'Iran, mais l'Iran a dit qu'il n'en voulait pas, donc il achètera, il n'a rien à acheter. Mais ils vont un petit peu plus loin, et c'est là que la déclaration est peut-être porteuse d'un peu d'espoir ou d'un peu de... un éclairage nouveau, j'allais dire. Écoutez bien. Nous affirmons qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Ça, c'est beaucoup. Compte tenu des conséquences de grande ampleur qu'aurait l'emploi des armes nucléaires, nous affirmons également que celles-ci, tant qu'elles existent, doivent servir à des fins défensives, de dissuasion et de prévention de la guerre. Et ils ajoutent, chacun d'entre nous entend maintenir et renforcer encore ces mesures nationales destinées à empêcher l'utilisation non autorisée ou non intentionnelle d'armes nucléaires. Alors, ce paragraphe est intéressant parce qu'il y a tout et son contraire, en fait. Compte tenu des conséquences de grande ampleur qu'aurait l'emploi des armes nucléaires, nous affirmons également que celles-ci, tant qu'elles existent, doivent servir à des fins défensives de dissuasion et de prévention. Mmh. Et ça commence par « la guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée ». Alors, on est en pleine contradiction. Vous affirmez que vous dissuadez. Mais on a toujours expliqué que la dissuasion, c'était faire réfléchir l'adversaire en lui disant « si tu ne comprends pas que je vais utiliser l'arme nucléaire, je vais l'utiliser ». À partir du moment où on écrit qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée, on est dans une contradiction flagrante. Ouais. C'est tout à fait clair. Et on retrouve alors un propos qui a été suivi de Poutine à plusieurs occasions, de dire « de toute façon, si on est attaqué par une arme nucléaire, on ripostera avec des armes nucléaires ». Et il a ajouté au président des États-Unis à qui il disait ça, nous serons morts, mais vous aussi. Et c'est bien ça le fond du problème. Une guerre nucléaire ne peut être gagnée. Et ça laisse une désolation pour l'espèce humaine et la planète. Ne doit jamais être menée. Donc on a la contradiction fondamentale qui est la contradiction de la politique française en particulier. Il faut des mesures de dissuasion en disant que de toute façon, on ne dissuade pas. On fait juste faire peur, mais on n'a pas de quoi utiliser, on n'utilisera rien. Donc vous ne faites pas peur, hein, puisque vous dites hein, j'ai un revolver, mais je ne le sortirai pas de ma poche. En gros, ça revient à ça. Bon, donc voilà où en sont ces braves gens. Non, je ne dis pas ça. Chacun, alors ils ajoutent, chacun d'entre nous entend maintenir et renforcer encore ces mesures nationales destinées à empêcher l'utilisation de nos autorités. Alors là où ils ont
autorisé par qui
hein, voilà, là où ils ont oublié une précision, chacun d'entre nous entend maintenir et renforcer ces mesures nationales. Bon, hein, mais ce qu'ils ont fait, et ce qui n'est pas dit dans le texte, c'est que les mesures nationales qu'ils ont presque toutes prises consistent à moderniser leur arme nucléaire. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Russie, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai certainement pour la Chine. Bon. Et donc, en fait, le tissu de contradiction, c'est-à-dire qu'ils disent hein, il faut éviter de la disséminer, mais nous, on va continuer à en avoir de plus en plus. Et surtout, pas de plus en plus peut-être en nombre, je me suis déjà expliqué là-dessus, mais de plus en plus en capacité de destruction. Donc, on en est là. On en est là. Alors, ça a quand même été accueilli par la Chine et la Russie comme un geste des États-Unis qui ont accepté de signer là. C'est quand même important que les États-Unis signent un papier où ils disent qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Donc ça veut dire que si jamais ils décidaient de la faire, ce serait pour tuer, ce serait un assassinat, ce ne serait pas une guerre, un assassinat de masse.
Exactement.
Hein, c'est pas autre chose. Hein, et à la limite, alors je ne vais pas faire l'apocalypse, mais c'est peut-être l'élimination de l'espèce humaine sur la Terre. Hein, bon, parce que alors, ça ne serait pas très très rapidement, parce qu'on ne va pas être trop triste en ce début d'année, mais très très rapidement, les effets d'une guerre nucléaire avec les capacités des bombes actuelles créeraient non seulement par la combustion, la température et tout, une zone de mort totale, et puis la pollution atmosphérique, les nuages qui seraient créés par l'utilisation de ces bombes atomiques, en fait, feraient probablement baisser beaucoup la température, empêcherait que le soleil arrive dans beaucoup d'endroits de la Terre, donc arrêterait l'agriculture, etc. Donc on est face à effectivement un événement qui ne peut pas se produire si ce n'est un événement suicidaire, alors qui ne serait pas un suicide de l'espèce, mais qui serait un suicide décidé par quelques galonnés, quelques étoilés, de faire disparaître l'espèce humaine. Ces gens-là sont dangereux. J'insiste là-dessus, ces gens-là sont très très dangereux. Alors, est-ce qu'il y en a ? Il y a certainement parmi eux des gens qui disent « Non, non, c'est uniquement pour faire peur ». Veut bien. Mais pourquoi faire peur ? Est-ce qu'il y a des raisons suffisantes pour dire... Alors, je reviens sur cette question de la dissuasion, parce que dans le cas de la dissuasion française, qui est toute petite comparativement, hein, par rapport aux 5000 et quelques bombes de la Russie et de la Chine, si on dit on veut juste dissuader, et on s'en servira que si on est attaqué. Alors, je veux dire, quelle est... Alors, aujourd'hui, faites le tour de la planète, réfléchissez, voyez les uns et les autres, leurs intérêts, leur régime politique, etc. Qui est le fou furieux qui déciderait d'attaquer la France avec le risque de recevoir une bombe atomique sur sa capitale ou sa principale... Je ne pense pas que ça existe. Je ne pense pas que ça existe. Parce qu'ils sauraient très bien, puis c'est ça le sens de ceux qui croient dans la dissuasion, si vous me faites quelque chose qui ne me plaît pas, je lance l'arme atomique alors que vous ne l'avez pas. Hein. Donc je suis sûr que vous ne pourrez même pas riposter. Alors qu'est-ce que vous m'avez fait qui puisse justifier que je vitrifie votre population ? Ça doit être particulièrement grave et je ne vois pas quoi. Hein. Je ne vois pas quoi. Donc on est dans cette situation assez étrange. Et puis avec la question des nombres, alors je rappelle, alors, parce que j'ai entendu des commentaires radiophoniques sur ce vote hier du Conseil de sécurité, de gens qui insistaient, alors c'était effectivement les radios et les télévisions publiques françaises, qui insistaient sur le fait que la Chine avait augmenté le nombre de ses bombes atomiques. Ah, bon, alors, froid et froid dans l'assistance. Et puis quand même, quand il a dit les chiffres, parce qu'il était bien obligé de les dire, il a dit oui, oui, les États-Unis ont en gros 5000 à 6000 bombes atomiques, la Russie à peu près autant, la Chine en est à 250, il semble qu'il soit monté à 300. Alors, Soyez terrorisés, braves gens. Ils en ont 100 de plus, mais les autres en ont 5000 de plus. Bon, c'est un petit détail. Mais voilà comment on crée aussi l'atmosphère politique dans laquelle on va vivre cette année, je pense pendant des mois et des mois. La Chine est dangereuse. La Chine est dangereuse. Elle a 250 bombes atomiques. Les États-Unis en ont 6000. Et en plus, la Chine ne peut... Alors, il y a un dernier débat qui a eu lieu au Conseil de sécurité, mais qui n'a pas donné lieu à un vote formel, c'est de dire... Et ça, c'est la demande... C'est très intéressant. C'est la demande que la Russie a formulée aux États-Unis avec, dans son projet de traité d'armistice ou de paix, appelons ça comme on veut, en disant « Vous pouvez avoir des armes nucléaires, mais gardez-les chez vous, c'est pour vous défendre. » Et ça, en ce sens, il marque un point, la Russie, puisque on garde l'arme nucléaire pour la défensive. Là, ça va. Donc, elles sont chez vous. Mais il n'y a pas de bombe atomique américaine aux États-Unis. Il n'y en a pas ici, voilà, il n'y en a pas en Turquie, il n'y en a pas en Italie, il n'y en a pas en Allemagne, il n'y en a pas, pas en Pologne, etc. Il n'y en a pas encore en Pologne. C'est ça, la différence. Et là, effectivement, le porte-parole du Kremlin qui commentait ce vote d'hier était assez content, puisque ça avait quand même fait avancer cette idée, ou ça leur permet de faire avancer cette idée, que, effectivement, il vaut mieux que chacun garde ses armes nucléaires chez lui, ou là, effectivement, il pourrait dire « là, je suis dans un état de légitime défense ». Mais quand un bombardier américain, quelque part vers Diyarbakir ou dans des coins comme ça, à l'extrême est de la Turquie, a des bombes atomiques et qu'il est à 200 km de la frontière russe, on n'est pas du tout dans le cas de la défense du territoire des États-Unis et de la population des États-Unis. On est bien dans le cas de guerre volontaire et de maintien de la domination.
C'est sûr. Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Donc une évolution, parce qu'effectivement, les États-Unis sont un peu acculés à dire « moi, j'ai des bombes partout ». Ils vont donner... ça va donner, je dis, des arguments à des populations. Je pense que c'est le cas en Italie, où il y a un véritable mouvement populaire, assez populaire, disons, pour pas trop enjoliver les choses, pour dire « les armes atomiques américaines, on n'en veut pas ». Parce que, imaginons qu'ils s'en servent et que la Russie riposte, puisque c'est l'hypothèse, la Russie va riposter là d'où sont partis les missiles.
Exact.
Et donc, en fait, on se retrouve dans la situation de cette Europe cible, qui est un espèce de... C'est le glacis, c'est la zone de protection des États-Unis qui ne veulent pas qu'on les touche, eux. Ça m'introduit, alors j'en parle, à l'émission de mercredi prochain, donc l'émission mensuelle de Comaguerre, le dossier, donc ça sera mercredi 12, je crois, sera consacré à l'Europe. Alors d'abord à l'Europe, pour essayer d'expliquer ou rappeler plutôt que l'Europe, c'est une notion géographique assez confuse, avec des limites qui bougent selon les endroits, que c'est compliqué, que ce n'est pas un endroit... Alors bien sûr, on dit, pour l'instant, c'est pacifique. C'est pacifique depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que tous les pays d'Europe sont maintenant dans l'OTAN, et que c'est l'OTAN et c'est les États-Unis qui décident de ce qu'on fait. Et donc ils ne vont pas se faire entrebattre des gens qui travaillent tous pour eux. Ça, c'est tout à fait clair. Mais l'histoire générale de l'Europe n'est pas l'histoire d'un morceau de continent apaisé. C'est même plutôt le contraire. Donc ne rêvons pas à ce calme européen. Et puis revenons un peu à la réalité des choses. Et ne nous laissons pas, alors on va y avoir droit, ne nous laissons pas abreuver de commentaires sur cette Europe si progressiste, si gentille. Alors en oubliant que l'Europe a colonisé, que l'Europe a torturé, que l'Europe a fait des esclaves, etc. Et qu'à certains moments, elle continue. Elle continue. Je pensais, dans la préparation de cette émission, à la politique euro-méditerranéenne de Sarkozy. Alors, je ne sais pas si vous avez un souvenir de ça. Monsieur Sarkozy avait dit « Mais quand même, ça serait bien qu'on ait de bonnes relations avec la rive sud, pour faire simple, puisqu'on est tous autour de ce même bassin méditerranéen. » Et en fait, c'est le même Sarkozy qui a organisé la guerre de Libye en particulier, où il a montré que le Sud et le Nord n'étaient pas tout à fait égaux et que le Nord pouvait se permettre effectivement de bombarder un pays sans motif et d'assassiner un chef d'État. Donc ce genre de rapport de l'Europe avec ses voisins laisse beaucoup à désirer. C'est le moins qu'on puisse dire. On en reparlera aussi, puisque un mot sur la Libye. Il est clair maintenant, parce que tous les témoignages vont dans le même sens, que le report des élections présidentielles, qui était donc prévu au 24 décembre, a été lieu, mais que c'est effectivement sur la pression de la Grande-Bretagne et des États-Unis que ces élections ont été reportées. Pourquoi ? Tout simplement parce que le candidat qui aurait convenu aux États-Unis et à la Grande-Bretagne avait toutes les chances de ne pas gagner. Et donc, ce qui va se passer, on est dans une situation donc instable, puisque tant que les États-Unis n'auront pas trouvé, et on ne voit pas trop qui vont trouver, quelqu'un qui est susceptible de gagner, de battre soit le maréchal Haftar, soit Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, on va faire traîner. Donc, on va laisser ce pays encore en proie aux rivalités tribales, etc. On en reparlera aussi. Alors, j'en étais à cet endroit-là demain. De ma chronique pour parler des d'un événement qui on est toujours dans le cadre de l'Europe. On est toujours dans le cadre de l'Europe parce qu'il se trouve que M. Draghi, Premier ministre italien, et le président de la République française se sont fendus tous les deux d'une interview commune, alors non pas sur la RAI ou sur TF1, mais sur le Financial Times. Comment ça se fait ? Alors vous ne lisez probablement pas, et vous avez raison, le Financial Times, donc, qui est le quotidien de l'économie capitaliste anglo-saxonne, qui est édité à Londres. Je peux vous donner une anecdote, parce que ça résume bien la situation. Si vous allez à Bruxelles, dans les locaux de la Commission, où il y a 5-6 000 fonctionnaires qui sont là pour faire fonctionner cette espèce de machine bureaucratique qu'est la Commission européenne, pratiquement tous les gens que vous voyez rentrer dans les bureaux ont le Financial Times dans la poche. C'est-à-dire que c'est la Bible du capitalisme anglo-saxon. Alors pourquoi ? Voilà. Pourquoi ils ont fait ça, M. Draghi et M. Macron ? Ben, ils ont fait ça au nom de leur nouvelle fraternité. Vous savez, le traité du Quirinal, on est très bien ensemble, on a beaucoup de points communs. Alors le point commun qui les a rassemblés, c'est très amusant, c'est qu'en fait, on a les deux États les plus déficitaires de l'Union européenne et les plus endettés. Et donc ils ont rappelé, benoîtement, alors ils l'ont dit dans le Financial Times, parce qu'effectivement, M. Macron ne va pas dire dans ses vœux de début d'année ou dans ses discours de campagne que la France est extraordinairement endettée, qu'elle a beaucoup de dettes, qu'elle n'a pas refait surface au point de vue économique, il y a un léger progrès en 2021, mais qui ne rattrape pas les deux années précédentes. Et donc, il ne parle pas de ces sujets-là qui fâchent. Surtout, je vous rappelle, il est en campagne, paraît-il. Il paraît qu'il est en campagne. Bon. Alors, il n'en parle pas, mais le message qu'il a envoyé, lui et M. Draghi, au grand capital international et à la Commission européenne, c'était de dire surtout ne rétablissez pas les règles, vous savez, les 3% de déficit budgétaire et tout. On a complètement explosé les règles. Bon, tout le monde a fait le canard, on n'en parle pas, il y a l'épidémie, etc. Hein, mais de toute façon, on est complètement à côté. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé, ces deux braves garçons ? Ils ont demandé à ce que l'Union européenne revoie sa politique sur les conditions financières, sur l'endettement des États et tout. On se retrouve, alors c'est un débat que j'avais esquissé, on se retrouve dans la situation où les endettés, alors dans l'Europe du Nord, au Danemark, aux Pays-Bas, on dit c'est les paresseux, hein, c'est les Espagnols, les Portugais, les Méditerranéens.
Sont,
voilà, les Méditerranéens, enfin les Méditerranéens sont des paresseux, donc forcément ils font des dettes, ils sont pas raisonnables, ils gèrent mal et tout. Nous sommes les frugaux. On a un budget équilibré, on s'y tient, on ne fait pas de dettes excessives, etc. Et donc, effectivement, M. Macron et M. Draghi essayent de dire qu'il faudrait une réforme de la fiscalité européenne. Mais je pense qu'ils vont parler tout seuls et que ni l'Allemagne ni les frugaux du Nord ne vont accéder à leur désir. Simplement, ce qui va se passer après cet effet d'annonce, c'est que chacun va dire, bon, on va voir plus tard, on ne va pas remettre les mesures de contrôle du PIB, de la dette, etc., en vigueur en 2022. Ce n'est pas le moment, l'épidémie n'est même pas finie, il faut continuer. D'ailleurs, il y a des nouvelles qui vont dans ce sens, puisque M. Le Maire, je crois hier ou ce matin, annonçait que les entreprises qui ont eu des prêts pour passer le cap de leur fermeture ou de la diminution de leur activité et tout, pourraient ne pas avoir à les rembourser tout de suite. Parce que la plupart de ces prêts, qui touchent beaucoup de PME, plusieurs centaines de milliers, étaient remboursables à partir du printemps 2022. Bon, ça supposait que l'épidémie fût finie et que l'activité soit revenue à un niveau acceptable. Bon, ce n'est pas le cas. Donc il a été dit par M. Le Maire ce matin même ou hier qu'effectivement on allait leur donner des délais. Et j'ai même entendu des chiffres, peut-être même 10 ans pour qu'ils remboursent ça. Alors, donc ça veut dire que le déficit et l'endettement vont continuer à être bien au-delà de ce qu'on a pu annoncer. Et donc l'Union européenne et la Commission vont être dans une situation délicate parce qu'elle ne pourra pas dire qu'elle abandonne totalement les règles qu'elle avait fixées et qu'elle nous avait imposées avec beaucoup de brutalité. mais elle sera bien obligée de reconnaître que la situation générale ne permet pas d'aller au-delà de l'endettement et des façons de faire continuer à tourner l'économie, d'autant plus qu'on sait, je reparle de la question sanitaire, que le souci de faire tourner l'économie a souvent prévalu sur la question de soigner la population. C'est particulièrement sensible aux États-Unis, mais il n'y a pas que là. C'était sensible au Brésil. Enfin, les pays les plus touchés par l'épidémie sont ceux où, effectivement, le plus d'action, enfin, le plus de passivité de l'appareil d'État par rapport à l'épidémie a été dans le sens « il faut que l'activité compte ». C'est en train d'arriver. Alors, il y a des pays où ça redémarre bien en Inde. C'est en Australie, l'Australie est très touchée. Le Japon, ça redémarre. Bon, donc, tous les pays qui ont dit « Ah ben, on continue, on fait continuer l'activité économique » sont en train de se reposer des questions, comme nous tous. Et puis on va faire une petite coupure. On va faire une petite coupure pour parler de l'armement, des guerres, etc. Qui est une coupure musicale. Après, je vous expliquerai de quoi il s'agit. Non, je vais vous le dire parce que je vais faire un petit commentaire off. Parce qu'il s'agit, donc, j'ai pris la bande-son d'un film fameux qui mérite d'être vu. Alors, je le dédie à Yamine qui me disait qu'il ne l'avait pas vu.
C'est en projet.
Voilà. Mais voilà, c'est un film central pour qui se préoccupe un peu de l'avenir du monde et la puissance destructrice des États-Unis dans ce monde-là. Donc, c'est le film qui s'appelle Apocalypse Now, donc le film de Coppola, qui traite de la guerre du Vietnam. Et la séquence sur laquelle cette bande-son s'inscrit, c'est l'attaque donc par une espèce de une formation d'hélicoptères de combat, ils sont probablement une dizaine, qui arrivent quasiment en rase-motte sur un petit village vietnamien et qui vont le bombarder. Alors, vous verrez, il y a plusieurs temps, il y a l'approche, où donc tous ces messieurs sont là, donc la scène se passe dans les hélicoptères, et on voit les visages des uns et des autres. C'est d'ailleurs assez intéressant, parce que Coppola est fin, c'est-à-dire qu'on voit à la fois les visages de ceux qui y vont, hein, on va casser du Viet, c'est ça. Et puis, il y a deux, trois soldats, en particulier deux blacks, qui sont un peu tristes figures, parce qu'ils doivent se dire, on va encore faire un carnage. Hein, mais... Voilà. Et ça, c'est des notations qu'on saisit comme ça, mais il n'y a pas de commentaire, bien sûr. C'est dans le fracas de l'hélicoptère. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Tout le monde a son pistolet mitrailleur pour, au passage, en rase-motte, tirer sur n'importe quel Vietnamien qu'on va trouver sur la plage, etc. Et puis, il y a un moment, alors il y a un décalage, le plan suivant, qui est un peu plus doux dans le son, c'est un plan dans lequel on est dans le village vietnamien. Bon, l'arrivée des hélicoptères a été signalée. Heureusement, ils ne vont pas trop, trop vite. Et donc, on voit la cour de l'école où, effectivement, les institutrices font vite ranger les gosses dans un endroit qui doit être prévu. Il y avait des abris partout. On voit toute la panique de la population, mais qui va se protéger autant qu'elle va pouvoir. Et puis, après, l'opération continue. Et on voit, effectivement, donc, la horde qui arrive et qui fait la dévastation qu'elle avait prévu de faire. Tout ça se passe sur le fond d'une musique qui est empruntée à Wagner. C'est la musique de Wagner dans la chevauchée des Valkyries. Voilà. Et tout ça est un moment extraordinairement fort et émouvant. Parce qu'il vient d'abord d'un Américain qui a été capable de prendre ses distances par rapport à ce que fait son pays. Qui a été capable de mettre en scène les Vietnamiens qui essayent de sauver leur peau. Et qui savent, de toute façon, ils ne sont pas de taille. Encore qu'on les voit encore, il y a des batteries de fusils mitrailleurs au sol qui essayent quand même. On voit un ou deux hélicoptères qui sont touchés. Ils continuent à se battre. Je rappelle que finalement, ils vont gagner. Hein, mais ouais. Ça, c'est pour plus tard. Et donc, on a une mise en scène extraordinairement forte de ce pays qui va en agresser un autre. Et qui dit le meilleur des Vietcong, c'est un Vietcong mort, on connaît le slogan. Voilà, on écoute ces 5 minutes de la chevauchée des Valkyries.
Et un film avec Marlon Brando et non pas Tom Hanks, comme je t'avais dit.
Voilà, c'est Brando qui est dedans.
Exactement, oui. Six Eagle Thrust. Put on Cywar up. Sing it loud. And the Romeo Foxtrot, shall we dance?
Thank you. weapon down below. We're gonna go down and check it out.
All right, this is Hawk 5. I'm rolling.
Outstanding, Red Team. Outstanding. Get your case of beer for that.
Voilà, et ça se continue. On voit même dans le dialogue là, entre ces deux soldats qui sont dans les hélicoptères, ils sont tellement près du sol qu'ils voient les personnes qu'ils vont tuer avant de tirer. C'est, bon, c'est un massacre à la mitraille, hein, puisqu'il y a des fusées de courte portée, et puis chacun des soldats qui est dans les hélicoptères de combat, d'assaut, a un fusil mitrailleur, et donc au passage, il arrose. Bon, et donc on voit, et ils disent là, je l'ai bien eu, enfin voilà. Bon. On est en plein là-dedans. C'est, bon, ça me. C'est une image qui me bouleverse parce qu'on est en plein dans l'horreur et on se demande quand on va en sortir. Mm. Bon. Alors, des signaux d'intelligence et de détente. Je vais les attribuer encore à Vladimir Poutine. Vous allez dire que c'est une maladie. Mais il a quand même fait, dans sa conférence de presse annuelle qui dure 4 heures, il est quand même intervenu sur la question des convictions religieuses.
Oui.
Et il a dit très clairement... S'en prendre aux convictions religieuses d'un autre n'est pas de la liberté d'expression.
Il a parlé de Mohamed, oui.
Hein, ce qui veut dire que vous savez, vous avez vous vos convictions religieuses, vous n'en avez pas, vous savez qu'un autre en a, ce sont des convictions religieuses, on sait que c'est du domaine de la conviction, ce n'est pas des raisonnements, c'est des convictions. La liberté d'expression ne consiste pas à dire à l'autre tes convictions sont stupides, ouais. Ou à les ridiculiser. Alors il l'a dit particulièrement en parlant de l'islam, en rappelant qu'il y a quand même sur le territoire de la Fédération russe d'à peu près 40 millions de musulmans, ce qui n'est pas tout à fait rien. Il a rappelé aussi que sur le territoire de la Fédération aussi, il y a aussi des bouddhistes, des chamanismes dans l'extrême-orient, que la majeure partie des Russes plutôt à l'ouest sont plutôt de confession orthodoxe, mais qu'il n'y a pas que ça, et que de toute façon, là, on était dans le domaine des convictions personnelles, et que simplement, elles devaient être respectées, et qu'il ne s'agissait pas de s'en prendre aux uns ou aux autres en les ridiculisant. Les convictions sont ce qu'elles sont, on a celles qu'on a, mais on n'a pas besoin qu'on vous dise « t'es dans l'erreur, tu ne comprends rien, ou tu es stupide, ou tu es méchant parce que tu as telle conviction ». Il l'a dit. Il a dit « c'est tout à fait important », et ça a été relevé. Ça a été relevé le lendemain même par le Premier ministre pakistanais qui a salué le discours en disant « voilà quelqu'un qui va dans le sens de la paix dans le monde », c'est-à-dire arrêter, parce que le Pakistan est particulièrement bien placé pour savoir l'usage qui est fait de soi-disant convictions islamistes pour mener la guerre. Hein ? Et au fond, il faut penser que les deux sont liés, c'est-à-dire à partir du moment où vous mettez dans la tête de quelqu'un qui a des convictions religieuses, que tous les gens qui n'ont pas les mêmes lui veulent du mal, à ce moment-là, il va prendre les armes et il va dire « mais moi, je n'accepte pas qu'on dise du mal de ma croyance ». Mais si vous ne dites pas ça, si vous dites « vous avez vos croyances, moi j'ai les miennes », le conflit disparaît en tant que tel. Donc, coup de chapeau à Poutine, parce qu'il l'a dit, il fallait le dire, et puis il a fait seulement référence à la situation de son pays. Et quand il parle de l'islam, c'est assez intéressant, parce que, souvenez-vous, il y a de ça un certain temps maintenant, c'était à la fin des années 90, on a reproché à la Russie d'être intervenue en Tchétchénie violemment. Parce que là, elle avait affaire à un mouvement, donc fondamentalisme musulman, instrumentalisé par l'Occident, et qu'il fallait que ça s'arrête, parce qu'autrement, la Russie allait y passer. Je rappelle qu'il y a eu des prises d'otages dans les grands, à l'opéra de Moscou, que ça a été très, 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 très dur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les terroristes tchétchènes ont été éliminés, et que depuis, on a un gouvernement tchétchène qui est dirigé par des musulmans tchétchènes, et qui sont tout à fait contents de faire ce qu'ils font. Et puis le pays est reconstruit. Et donc ça, c'est une expérience. Alors Poutine n'était pas encore, il était dans les allées du pouvoir, mais il n'était pas encore à la tête du pays. Et donc il sait ce genre de situation, et il sait, comme on le sait tous, que effectivement agresser quelqu'un d'autre par rapport à ses convictions religieuses, c'est le mettre en colère, le mettre mal, hein, et l'amener, si on fait ce qu'il faut et si on lui trouve des armes pour exprimer son mécontentement, à créer des conflits. Donc, il marque aussi, alors c'est intéressant, parce qu'il y a à la fois le vote à l'ONU sur la guerre nucléaire, et puis le vote, enfin, cette prise de position concrète, c'est-à-dire il faut aussi arrêter d'instrumentaliser les croyances des uns et des autres pour fabriquer des guerres qui sont inutiles. L'humanité n'a pas besoin de ça. Voilà. Et dans le... Alors, c'est pas... Oui. Oui, dans le même sens, les propos du président chinois, les propos de vœux du président chinois, alors n'étaient pas sur ce terrain-là, mais étaient sur le terrain. L'humanité aujourd'hui, les quasi 8 milliards d'habitants qui vont peut-être monter jusqu'à 10 ou 11, et puis après ça devrait un peu se calmer, se tasser, disons. Et puis il faudrait que ce soit à peu près compatible avec l'état de la planète et ses ressources. Bon. Mais il a dit simplement, on est tous, le langage est connu, on est tous sur le même bateau. Maintenant, il faut arrêter de dire que tout, on peut échapper à la crise climatique, on peut échapper à des tas de choses. Donc, il faut qu'on ait des échanges, il faut qu'on se respecte les uns les autres, qu'on travaille ensemble. C'est ça le message chinois. Alors, ça déplaît particulièrement à des gens qui voudraient pouvoir continuer à faire peur.
Message russe.
Voilà. Alors, parmi les gens qui veulent continuer à faire peur, je voulais parler de quelque chose qui se passe. Alors, c'est très intéressant. On a célébré ces jours-ci, donc au Moyen-Orient, une action de guerre des États-Unis, qui était l'assassinat du général Soleimani, donc ce général, le commandant du corps des gardiens de la révolution iranienne, qui a été assassiné. Clairement, alors assassinat revendiqué par le président des États-Unis lui-même, hein, par un drone, c'est-à-dire que ce qui menace Assange plutôt de finir sa vie en prison ou de mourir très très vite dans les prisons des États-Unis, c'est le fait qu'il a dénoncé ce genre de choses. Alors, là, il était déjà en prison, c'est pas lui qui l'a fait, mais il n'y a pas eu besoin même d'une fuite. C'est Trump qui a dit « Nous avons éliminé le général Soleimani ». Et le responsable des groupes irakiens. Bon. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que c'était une opération vicieuse, extrêmement bien montée, puisqu'il est établi maintenant que le général Soleimani venait à Bagdad, il est iranien, je le rappelle, il venait à Bagdad parce que l'Irak était d'accord pour faire une intervention, pour faire l'entremetteur entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, justement, la pression des États-Unis fait que les États-Unis, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis mettent tous leurs moyens financiers et militaires pour faire tomber les régimes laïcs de la région. La Syrie est le cas. Et ça voulait donc dire que Soleimani, et donc l'Iran, puisque là, il était mandaté, il avait une véritable capacité militaire, une capacité d'intervention, il était respecté dans la totalité du monde moyen-oriental. Il voulait aller voir les Saoudiens, leur disant, mais non, il faut arrêter de dire qu'on vous veut du mal. On ne vous veut pas de mal, mais laissez-nous tranquilles, hein, et arrêtez d'obéir comme des petits toutous aux États-Unis. Bon. Ça, c'était connu, le but de sa visite était connu, c'était prévu à Bagdad, dans un local officiel, il est arrivé par un vol commercial tout à fait, il n'était pas du tout une opération terroriste des gardiens de la révolution. Ça devait avoir lieu en Irak, parce que d'une part, le gouvernement irakien était d'accord, et que je le rappelle que depuis 2003, l'Irak est occupé par l'armée des États-Unis. Et que donc, nécessairement, l'armée des États-Unis savait exactement à quelle heure allait arriver le vol direct sur Bagdad, où est-ce qu'ils allaient aller pour discuter. Donc, tout ça était prévu, et les États-Unis avaient laissé faire. C'est-à-dire, ils s'étaient dit, il vient, le piège est tendu, il meurt. Ça vous dit quelque chose ? On dirait Hillary Clinton, mais c'était Trump. Hein. Ouais. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il est mort. Donc, un drone est venu. On est tout à fait dans Assange et dans Wikileaks. Un drone est venu et les deux personnages importants et quelques autres, d'ailleurs, qui étaient autour, ont été éliminés. Il faut... Alors, je le rappelle parce que c'est aussi ça, la perversité de cette politique-là. Alors, c'est pas que celle de Trump, en particulier. Mais ça veut dire qu'il faudra bien un jour, que j'espère le plus proche possible... que les gouvernants qui mettent en avant les discours sur les droits de l'homme en permanence l'appliquent partout de la même façon. Hein ? Parce que parler des droits de l'homme en Iran et pas parler des droits de l'homme en Arabie saoudite, ça va pas. Hein ? C'est partisan, c'est fauteur de guerre, c'est l'inverse de la justice et de la moralité. Et donc c'est ça, le jeu de l'Occident, on le connaît. Il y a des gens dont on critique la politique en matière de droits de l'homme et il y a des gens dont on ne la critique pas. Or, si à partir du moment où on tient un discours et qu'il y en a la moitié de la population qui échappe, ce discours-là est creux et malhonnête, hein, puisqu'il devrait s'appliquer également à tout le monde. À propos de malhonnêteté, je suis sur l'Arabie saoudite. Il faut savoir, ça vient d'être dévoilé par le Guardian, donc le quotidien britannique libéral, disons, qui a constaté que les personnes, les citoyens d'Arabie saoudite qui avaient été condamnés pour le découpage de M. Adam Khashoggi, le journaliste saoudien qui a été découpé en petits morceaux dans les locaux du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, eh bien ces gens-là, qui étaient tous membres des services secrets d'une façon ou d'une autre, mais qui ont été dans leur procès considérés comme ayant mené l'opération de leur propre chef.
Alors ça, bon, alors, c'est pas vrai.
on a voulu accepter cette version des choses. Eh bien, le Guardian met en page un article où il explique que ces gens-là vivent très très bien dans une espèce de résidence bien fermée où il y a tout ce qu'il faut pour les distractions, l'alimentation, etc. Ils sont traités comme des hauts fonctionnaires du régime saoudien. Et donc, leurs peines ont été relevées. Ils ont fini pratiquement leur temps de peine. Et donc, voilà, c'est comme ça. Alors, dans la mesure où un pays comme les États-Unis ne dit rien là-dessus, alors qu'il a quand même été assez choquant, le découpage de M. Khashoggi.
Démocratique.
Oui, pays, voilà, il n'est pas sérieux. Donc, moi, un souhait que je peux formuler, ça va être mon vœu de fin d'année, c'est qu'à partir du moment où on parle des droits de l'homme, on en parle partout dans le monde de la même façon. Et on ne fait pas le tri entre ceux à qui qu'on oublie, on regarde de l'autre côté, et ceux pour qui c'est le menu quotidien, ils ont tous les torts, etc. C'est une politique qui ne tient pas et qui tiendra, à mon avis, de moins en moins, surtout qu'effectivement, aussi bien du côté de la Russie que de la Chine, et maintenant d'un certain nombre de gens, il y a des gens qui disent « ce discours-là ne nous intéresse pas, ce discours-là ».
Et que ce journaliste Khashoggi était pro-saoudien.
Tout à fait, oui, ouais. C'était un saoudien, oui, ils ont découpé un saoudien. Voilà. Mais il était un peu, peut-être un peu trop libéral, un peu trop, voilà. J'en reviens, voilà. Alors, on va parler de Soleimani, alors on va peut-être pas le faire aujourd'hui, mais je sais qu'une de nos amies syriennes, qui s'appelle Aïssar Midani, qui est aujourd'hui à Damas, qui est maintenant à Damas...
Non, elle est à Paris.
Elle est à Paris aujourd'hui.
Oui, elle est à Paris actuellement. Ce matin, elle m'a téléphoné. Je connais bien Bernard Jeunet. Je le sais, Habib, on proposait l'heure que vous voulez.
Ah bah, alors, ce qu'on va faire, parce que là, on a le temps a pas mal passé, on va profiter de son passage à Paris, parce qu'on pourrait les téléphoner à Syrie, mais ça serait moins facile. Donc, pour l'interviewer, parce que je sais, et c'est bien lié à ce que je venais de vous dire, qu'elle a participé à un montage qui est sur YouTube, donc à une vidéo sur le général Soleimani et sur l'assassinat. Ouais. Avec toute une série de contributeurs. Alors, il y a des gens que ça va défriser, parce que dans les contributeurs à cette vidéo, il y a des gens de droite et de gauche. Il y a même un élu du Front National qui dit que ce n'était pas propre. Alors, moi, je ne suis pas au point où, si un élu du Front National dit que ce qui est blanc est blanc, je vais dire, ah ben, je ne le crois pas parce qu'il est du Front National. Donc, ce monsieur dit effectivement, nous n'avons pas été très propres dans nos actions contre le général Soleimani. C'est moi, il peut dire que c'est un assassinat organisé par le président des États-Unis et qu'il a reconnu en disant, mais oui, j'aurais dit, j'étais d'accord pour qu'on le tue, on l'a tué. Il nous gênait.
Il ne faut pas oublier que Nasrallah a accusé aujourd'hui directement l'Arabie saoudite d'abord d'avoir... participer à cet assassinat, d'une part. Et d'autre part, il a parlé que ceux qu'ils ont financés en Irak et en Syrie et même au Liban, hein, les djihadistes comme Daesh, Nasrallah, voilà. Je voulais simplement dire que ce mec, il a, pendant une heure, il a accusé directement l'Arabie saoudite.
Voilà, on sent que ça fait partie des éléments un peu d'optimisme en ce début d'année, qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays et de leaders qui sont reconnus et qui font un gros, gros travail, qui veulent sortir de ce discours simpliste, le terrorisme, les bons et les méchants, ce discours manichéen, ce discours de mauvais western qui a fait son temps, c'est manifeste. Alors donc, par rapport à Aïssar Midani, je pense qu'on va la contacter, essayer de faire un enregistrement un peu... copieux sur la situation en Syrie et sur ses problèmes diplomatiques, sur le film auquel elle a contribué sur le général Soleimani et sur son assassinat. Et puis on vous le fera passer à l'antenne dès que ce sera possible. Et pour finir sur les assassins, J'en suis là. Je vais vous donner... Alors, c'est d'avant-hier. Hein. Le président Biden a signé donc la loi. Vous savez que dans la Constitution des États-Unis, le Congrès vote des lois avec des financements et le président les met en œuvre. C'est-à-dire qu'il les valide. Elles peuvent s'appliquer à partir du moment où il les a contresignées. Et donc, il a contresigné le budget militaire 2022. Ce budget militaire est le plus haut de l'histoire des États-Unis. On est à 770 milliards de dollars. C'est encore 40 de plus que le dernier budget de Trump, qui avait été considéré en particulier par les démocrates comme excessif. Donc, record battu. Record battu. C'est pour ça que quand les porte-parole du Kremlin se disent « C'est quand même bien que les États-Unis aient accepté de signer un papier où ils reconnaissent que l'arme nucléaire, c'est dangereux. Bon. » Mais en même temps, dans ces 770 milliards, il y a de l'argent pour améliorer, moderniser les armes nucléaires. Et ça me donne l'occasion simplement de rappeler que ce budget donc de 770 milliards de dollars est sensiblement plus élevé que le budget de la Chine, qui est de 250 milliards de dollars, un tiers. Rapporté à la population, quatre fois plus importante, c'est un douzième. Hein. Bon. Et par rapport au budget russe, pour lequel on nous ferait faire mieux de peur, c'est 12 fois le budget militaire russe, qui est de 60 milliards de dollars. C'est, enfin, donc au cours du change classique. Donc c'est ça qu'il faut avoir bien en tête, c'est-à-dire que... Et c'est pour ça que l'idée de dire « Vous avez des armes nucléaires », de dire aux États-Unis « Vous avez des armes nucléaires », eh bien c'est pour vous défendre. Alors mettez-les chez vous, c'est tout. Hein. Vous êtes libre de vous défendre comme vous voulez, puisqu'on n'a pas... Personne ne veut venir vous envahir, ne vous inquiétez pas. Mais si jamais quelqu'un avait l'idée stupide de venir vous envahir, vous avez le droit de vous défendre comme tout le monde, comme le Venezuela, comme Cuba, tout le monde a le droit de se défendre. Avec les moyens dont ils disposent. Mais c'est tout. N'exportez pas tout ça. Et à quoi vont servir ces 570 milliards de dollars ? Ben, ils vont servir à, bien sûr, augmenter les programmes d'armement, à financer les bases nucléaires, à moderniser les armes nucléaires, hein, et à mettre au point une logistique. Alors, c'est un dernier point qu'il faut connaître, c'est-à-dire que la logistique militaire des États-Unis est telle que les États-Unis sont en capacité d'envoyer des troupes à l'échelle de 500 ou 1000 personnes avec l'équipement qu'il va faire, en une demi-journée dans n'importe quel point du globe. C'est ça la règle. Toute simple. Ils se sont fixés ça comme règle et ils l'appliquent. Alors il y a deux endroits où ils enragent parce qu'ils n'arrivent pas à mettre un soldat sur le territoire chinois et pas à mettre un soldat sur le territoire russe. Ça les dérange vraiment, pas plus que sur la Corée du Nord et pas plus qu'au Venezuela. Mais là, ils ont vraiment deux énormes morceaux de la terre qui leur échappent. Alors, ils essayent d'encercler. Ce sera la thématique de cette année diplomatique dans l'Europe, en gros, puisque le débat, alors, qui se poursuit ou qui commence, disons, au niveau des hauts fonctionnaires entre la Russie et les États-Unis, se poursuit sur ces questions-là, de savoir à quel moment la Russie peut se sentir menacée si elle a effectivement des armements nucléaires états-uniens à deux heures de route de Moscou. C'est ça qui se joue. Voilà. On reparlera de tout ça certainement au cours de cette année. On se retrouve mardi prochain. Je pense qu'on aura donc Aïssar Minadi à l'antenne. Voilà. Et puis on se retrouvera mercredi pour parler de l'Europe telle qu'on nous la présente et telle qu'elle n'est pas. Merci Yavin. À très bientôt.